France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Il rythme notre actualité. Il mesure en continu la hausse ou la baisse des cotes de popularité. Scruté avidement pendant les campagnes électorales, il hiérarchise sans cesse les candidats en fonction de la confiance qu'ils inspirent ou non. Il consulte les citoyens pour savoir ce qu'ils pensent des grands thèmes de la vie politique, économique, civique ou internationale. Sur chaque question cruciale, il dégage des majorités d'opinion, relayées dans les médias et commentées à foison. Depuis la dissolution, il pleuve face à l'instabilité et cette semaine, M. Lecornu les a déjà subis. Nul besoin de se demander à qui je me réfère avec ce « il » mystérieux. Je parle bien évidemment des sondages. Des sondages qui, avec le temps, sont devenus les miroirs de l'opinion et les métronomes de notre vie politique, si bien qu'ils jouent incontestablement un rôle majeur dans l'agora moderne. Mais quelle est au juste la nature de son rôle ? Ont-ils seulement une fonction descriptive, offrant une photographie en temps réel de l'opinion publique ? Ont-ils aussi une portée normative, voire performative, ayant une influence sur le réel qu'ils prétendent dépeindre ? Se pourrait-il enfin qu'à leur corps défendant, ils réverbèrent aussi, malgré leur rigueur méthodologique, un arrière-plan idéologique, culturel, politique, marchand, en ensemble un ensemble de contraintes qui, à leur insu, sous-tendraient leur démarche ? Les sondages font-ils l'opinion ? J'aurai le plaisir d'en débattre aujourd'hui sans préjugés, aux côtés du directeur général de l'IFOP, Frédéric Dabi, de la spécialiste de la gestion de crise, Véronique Reissoult, et du sociologue, Hugo Touzet.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Bonjour Frédéric Dabi.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'IFOP et co-auteur avec Brice Sokol de Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube. Bonjour Véronique Reissoult.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Backbone Consulting, et spécialiste de la gestion de crise et de l'analyse de l'opinion. Et bonjour Hugo Touzet.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et auteur de Produire l'opinion, une enquête sur le travail des sondeurs, parue hier aux éditions de l'EHESS. Alors, j'aimerais commencer cette émission, c'est pas du tout du mauvais esprit de ma part, mais on dit souvent en philosophie et particulièrement en phénoménologie que pour comprendre un phénomène, il faut voir souvent le moment où le phénomène ne marche pas, ou en tout cas où on a l'impression qu'il y a une défaillance, un dysfonctionnement, et qu'ainsi ça révèle toute la structure. Alors, incontestablement, les sondages, de façon globale, on remarque qu'entre les sondages qui sont donnés dans les médias et ce qui se produit aux élections, l'écart est très souvent très faible. Mais il arrive, et il a pu arriver ces dernières années, notamment en France, que le résultat d'une élection soit une surprise totale par rapport à ce qui était annoncé dans les sondages. C'était le cas en 2002, tout le monde s'en souvient, avec l'arrivée surprise de Jean-Marie Le Pen, qui semblait devoir être au second tour, comme avait dit le résultat à la télévision donc de l'élection présidentielle. Et c'était le cas aussi, en tout cas, ça a pu éventuellement être le cas, ou donner cette impression, aux dernières législatives, où la plupart des instituts de sondage donnaient quand même le Rassemblement National, lui donnait une majorité relative ou absolue. Comment, Frédéric Dabi, vous analysez cet échec apparent, ou ce dysfonctionnement apparent des sondages ?
Déjà, merci pour votre honnêteté de dire que la plupart des sondages arrivent à bien saisir le rapport de force électorale. On parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on parle de ceux qui arrivent en retard. Historiquement, pour moi, j'ai commencé le métier à ce moment-là, la plus grosse faillite ou mauvaise estimation des sondages, c'est pas 2002. On n'a pas le temps d'en parler, mais 2002, c'est une faillite collective, médiatique, politique, où irrémédiablement, le second tour devait donner les deux cohabitants qui s'affrontaient depuis 5 ans, Lionel Jospin et Jacques Chirac, et personne n'a vraiment, tout le monde a vu, mais personne n'a compris que la baisse de Lionel Jospin, la montée de Jean-Marie Le Pen et des sondages les donnés pouvaient augurer ce second tour surprise. La faillite, on va se parler franchement, c'est 95. 95, il y a énormément de sondages. Jamais un sondage ne donne Lionel Jospin en tête. C'est-à-dire que les sondages n'ont pas été capables de donner les deux qualifiés pour le second tour. 2002 excepté, ça ne s'est jamais produit. 2024, je m'élève en faux. Je conteste complètement l'idée d'une faillite des sondages. Et il y a des éléments de langage qui sont martelés à toutes les émissions, notamment par les élus de la France Insoumise, qui disent, on les entend tous et toutes, 27 sondages sur 27 ont donné le RN gagnant. Que s'est-il passé ? D'abord, il y a eu une très bonne estimation du premier tour du rapport de force électorale. J'invite nos auditeurs de France Culture à aller sur le site de l'IFOP, du Figaro, de LCI ou de Sud Radio et regarder la dernière mesure de l'IFOP qui nous donnait bien les 28 et quelques pour le NFP, les 22% pour le Bloc Central et les 31-32% pour les Ciottistes et pour le Rassemblement National. Au second tour, on fait des projections en siège. C'est du sondage, mais c'est aussi de l'analyse politique qui est beaucoup plus compliqué puisqu'on projette des configurations de second tour, circonscription par circonscription. C'est pas complètement du sondage. Que s'est-il passé du côté IFOP ? Et je vais parler de mes confrères Ipsos qui ont fait le même travail que nous avec France Télévisions. Nous n'avons jamais donné la majorité absolue pour le Rassemblement National, y compris le 30 juin au soir sur TF1, au soir du premier tour, avant les retraits de candidats qui ont aidé le Rassemblement National. Nos rollings, nos enquêtes quotidiennes, ont systématiquement donné un reflux du nombre de sièges pour le Rassemblement National. Notre dernière mesure donne 170 à 200. Alors le RN, finalement, en a 140. Mais nous donnons la gauche jusqu'à 185 sièges. Donc nous donnons une hypothèse où la gauche arrive en tête. Je l'ai commenté sur LCI et le 5 juillet du côté de C'est à vous. C'est vrai que le halo, c'était le RN va gagner, mais quand même, les instituts de sondage et même les politiques ont mis beaucoup, pardon de parler anglais, de warning sur le mode. Autant la campagne de premier tour était une réussite, autant le second tour était plus compliqué. Donc je conteste formellement, même si les sondages n'ont pas donné la gauche globalement en tête. Il y avait des hypothèses, et je l'ai dit, où le Front républicain pouvait favoriser le Bloc central, qui a fait plus de sièges que ce qui était prévu, et la gauche qui est arrivée en tête, mais je le répète, qui n'a pas gagné. Quand on est à 90 sièges de la majorité absolue, c'est difficile de s'arroger une victoire.
Véronique Reissoult, est-ce que vous partagez ce diagnostic, cette idée selon laquelle c'était une illusion, ou en tout cas une petite musique consistant à dire que les sondages s'étaient trompés sur ces dernières élections législatives et qu'en fait ça ne correspondait pas du tout à une réalité ?
Oui, je suis d'accord. Et surtout, en fait, il y a sondage et sondage. Ensuite, un sondage n'est pas prédictif, c'est une photo à un instant T. Ensuite, comme l'a parfaitement bien expliqué Frédéric Dabi, qui est non seulement un référent dans le métier, mais qui est toujours d'une droiture et d'une rectitude sur l'analyse de ses propres données. Les sondages législatifs, c'est très particulier. Il y a une réalité qui est... D'abord, c'est très onéreux de faire une vraie projection. C'est pas du tout la même chose que quand vous sondez rapidement l'opinion publique avec la méthode des quotas sur un échantillon plus faible, où là, ça peut se faire simplement. C'est très compliqué. Donc, il y a peu d'instituts qui le font. Et ensuite, vous aviez une différence qui est... ce qui était presque, d'ailleurs, le thème de votre émission, c'est est-ce que les sondages influencent l'opinion ? La réalité, c'est que quand vous êtes en train de dire au deuxième tour, il va y avoir des désistements, ils sont très compliqués à imaginer, donc les sondeurs ne sont pas des magiciens, ils ne peuvent pas imaginer la réalité des désistements, et ils ne peuvent pas non plus anticiper la réalité des actions et des réactions de l'opinion publique sur des temps courts de ce type-là, où il y a une forme de sidération, parce qu'on oublie aussi, au-delà des sondages, qui est premier tour, il y a une espèce de libération de la parole sur le fait de voter Front National, enfin Rassemblement National, pardon, et voire même d'être candidat Rassemblement National n'est plus vous mettre au banc de la société. Et le deuxième tour, tout d'un coup, ça redevient quelque chose de très fort. Les gens qui avaient voté Rassemblement National sont complètement déroutés en se disant mais dans le fond, c'est de nouveau quelque chose de pas acceptable. Et le nouveau Front Populaire se rassemble et existe vite, mais se désiste très bien. Enfin voilà, c'était impossible à anticiper. Donc, ce n'est pas les sondages qui sont à remettre en question. C'est la réalité de quelque chose qui est arrivé et qui était assez exceptionnel et peu anticipable. Donc, de nouveau, les sondages, pas tous, mais globalement, ils sont une photo assez juste du moment. Mais une photo du moment, c'est une photo du moment. On ne sait pas quel sera le mouvement juste après. On peut l'anticiper. Les baromètres donnent des tendances. Donc, c'est plus simple avec un baromètre d'anticiper une tendance. On peut, parce qu'on connaît bien l'opinion et Frédéric connaît bien l'opinion, évidemment, donc peut interpréter et comprendre, mais ça n'est jamais qu'une projection à partir d'une photo. Et les photos, il ne faut pas qu'elles soient floues, et dans le cas présent, ces photos-là, elles n'étaient pas floues. C'est l'opinion et la situation qui étaient floues.
Alors, Frédéric Dabi soulignait tout à l'heure que cette... cette musique, en un sens, ou cette idée selon laquelle les sondages s'étaient particulièrement trompés, avait notamment été diffusée par certains élus de la France insoumise. Mmh. Et c'est un peu la question que je me pose en vous écoutant. Peut-être que c'est différent de sonder les intentions de vote pour tel ou tel mouvement politique et pour tel ou tel autre, par exemple, entre le Rassemblement national et la France insoumise. Alors, Jean-Luc Mélenchon, au printemps dernier, se plaignait du fait que, en tout cas selon lui, vous contestez cette analyse, mais les sondages dans les dernières élections présidentielles avaient donné en gros 3 points en plus au Rassemblement National par rapport à son score effectif et 3 points en moins à la France Insoumise, ou plus d'ailleurs par rapport à son score effectif. Hugo Touzet, d'abord, est-ce que cette critique était pertinente? Et puis surtout, est-ce que ça reflète le fait que c'est peut-être différent de sonder tel ou tel parti plutôt que tel ou tel autre?
Ouais, la question, elle invite peut-être à réexpliquer très rapidement comment on fabrique un sondage, comment on fait un sondage aujourd'hui, parce que c'est peut-être pas très clair, et les débats qu'on a montrent que parfois c'est pas très clair. Est-ce que c'est un sondage, est-ce que c'est une projection? Aujourd'hui, la majorité des sondages, et en tout cas des sondages dont on parle là, sont des sondages qui sont administrés par Internet auprès d'individus qui sont inscrits sur ce qu'on appelle des panels en ligne. Panels étant gérés la plupart du temps par des sociétés dont c'est le travail, qui crée des fichiers et les entretiennent en permanence. Une des possibilités explicatives, une fois qu'on a dit, bien sûr, et moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Frédéric Dabi, que la plupart du temps, dans la majorité des cas, les résultats, si on prend les vendredis, la veille d'une élection, l'avant-veille d'une élection, sont relativement proches, très proches du résultat final. Il arrive, comme ça a été le cas dans certaines élections, qu'il y a un petit décalage. Une des hypothèses explicatives peut se trouver dans la constitution de ces panels, c'est-à-dire qui sont les membres de ces panels. Et en l'occurrence, on sait que ces panels sont, il y a des études qui ont montré ça, notamment des études de l'INSEE, sont représentatives d'un point de vue de la sociodémographie, c'est-à-dire en termes de pourcentage de femmes, d'hommes, d'ouvriers, d'employés, mais que les gens inscrits sur ces panels peuvent avoir des petites différences, par exemple des gens plus politisés, plus branchés sur l'actualité, plus rapides à s'intéresser à ces sujets-là. Et donc, au regard de ces critères-là, ne sont pas totalement représentatifs de la population. On sait par exemple, et on l'a vu en analysant les résultats électoraux, que Jean-Luc Mélenchon, dans les tout derniers jours, a connu une surmobilisation d'un électorat, notamment dans les villes populaires. Et une des hypothèses, qui est partagée d'ailleurs par certains sondeurs, c'est que cet électorat-là se retrouve un peu moins au sein des panels, ce qui peut expliquer une différence. Un deuxième exemple, on prend souvent la catégorie d'ouvriers de manière unifiée. Or, quand on distingue un petit peu cette catégorie au sens de l'INSEE, on va distinguer les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés. Or, cette distinction-là n'est pas faite par les panels, les entreprises de panels. Et on sait, pareil, là, les résultats sociologiques le montrent bien, que les ouvriers qualifiés vont avoir un peu plus tendance à voter pour Marine Le Pen, quand les ouvriers non qualifiés vont davantage voter pour la gauche ou s'abstenir. Or, ces ouvriers non qualifiés vont aussi être un peu moins présents dans ces panels. Donc là, vous voyez, une fois qu'on a encore une fois rappelé que les résultats sont souvent juste par rapport aux derniers résultats, on va avoir quand même des petites explications, des décalages qui se constate aussi également.
Est-ce que vous partagez ce...
Oui, je partage globalement ce qu'a dit Hugo Touzet, qui est très juste. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a attaqué l'IFOP directement, nous assignant le sobriquet de IFOP. IFOP, oui. Voilà, c'est toujours drôle. On lui a répondu très factuellement. On a pris toutes ses candidatures présidentielles. Nous l'avions surestimé d'un point et demi, deux points en 2012. Il s'en était pas plein. On l'a donné à son point près en 2017, qui est une des élections où les rapports de force que l'on fait, nous, avec des rollings, des enquêtes quotidiennes, qui permettent vraiment de suivre le film de la campagne, était parfait. C'est vrai qu'en 2022, pour lui, comme pour d'autres candidats, la logique de vote utile qui a été extrêmement forte au profit de Marine Le Pen face à Zemmour, au profit d'Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse, au profit de Jean-Luc Mélenchon face à la gauche, n'a pas été vue jusqu'au bout. Et effectivement, une donnée très factuelle, 69% des Français de confession musulmane ont choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Et ceux-ci sont, dans les villes populaires, dans les quartiers, sont plutôt, pas complètement, mais sous-représentés dans nos panels. Aux élections européennes, la dernière mesure de l'IFOP donnée Manon Aubry à 9 le vendredi 7 juin et 9,5 le samedi 8 juin, elle a fait, comme vous le savez, 9,8. Oui.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Le titre de notre émission, les sondages font-ils l'opinion, est peut-être une question intrinsèquement bourdieusienne. parce que, alors Bourdieu a écrit une conférence dont d'ailleurs vous parlez beaucoup dans votre livre Hugo Touzet, critiquant la notion même de sondage et surtout l'idée selon laquelle il y aurait une opinion qu'il faudrait sonder. D'ailleurs, entre parenthèses, vous racontez Hugo Touzet dans votre livre que l'introducteur du mot sondage en France, quand il a proposé ce terme parce qu'il n'y avait pas d'équivalent au mot anglais qui pouvait décrire les votes de paille ou les votations, etc., eh bien, ses collègues lui ont dit est-ce que c'est des problèmes urinaires, cette idée de sonder. Donc je vous propose d'écouter Bourdieu en 1986 sur la notion de sondage.
Je pense qu'il y a un abus de science, un usage illégal de la science sociale. Bon. Et comme on parle d'usage illégal de la médecine. Bon. Et à ce titre, je souhaiterais beaucoup que des institutions efficaces, de contrôle efficace soient mises en place, et qu'en tout cas, et c'est le sens de mon intervention, le soupçon se généralise à l'égard des sondages, que les hommes politiques, les journalistes, etc., regardent de manière soupçonneuse, c'est-à-dire avec vigilance, comme le font les chercheurs, les sondages. Le problème du sondage, c'est qu'on ne peut pas en lui-même, enfin ça n'a pas de sens d'en dire du bien ou du mal. Et souvent les gens posent le problème comme ça, est-ce que vous êtes pour ou contre les sondages? Bon. En fait, ça serait une question de sondage, c'est une question idiote. Bon. Et un des effets principaux que produisent les sondages, c'est d'imposer à des gens des questions idiotes, bon, ou des questions qui n'intéressent que ceux qui les posent. Bon, alors comme les gens sont polis, en général ils répondent, et par le fait de poser certaines questions naïves d'un point de vue scientifique, enfin, on produit des réponses artificielles, on produit des artefacts.
Hugo Touzet, vous commentez longuement dans votre livre ces déclarations très célèbres selon lesquelles les sondages poseraient des questions idiotes, n'intéressant que ceux qui les posent. Comment analysez-vous cette déclaration de Bourdieu ?
La première chose à dire, c'est que Pierre Bourdieu, avec cette fameuse conférence « L'opinion publique n'existe pas » et les recherches que ça a entraînées par sa suite, ont quelque chose d'intéressant parce qu'elles aident à penser un élément important, c'est que l'opinion publique n'existe pas dans l'absolu, c'est-à-dire qu'elle est toujours le fruit de ce qu'on collecte, et je rajouterai tout de suite après ce qui est quasiment vrai de n'importe quelle donnée quantitative. Si vous quantifiez le chômage, par exemple, vous avez un chiffre du chômage, 10, 12, 13%, si vous faites varier les paramètres de la dernière période de travail, etc., vous avez un autre chiffre. Donc Bourdieu permet de désacraliser l'opinion publique, qui n'est pas quelque chose dans l'absolu, mais qui est toujours en même temps construit, en même temps qu'on le construit. C'est-à-dire l'instrument de mesure et la mesure sont des choses à penser ensemble et ont un effet l'un sur l'autre. Et d'ailleurs, les sondeurs, historiquement, je veux dire, en ont parfaitement conscience. Il y a une citation très célèbre d'un des fondateurs aux États-Unis, George Gallup, des sondages, à qui un journaliste demande quelle définition donneriez-vous à un sondage d'opinion publique. Il répond, c'est un instrument de mesure de l'opinion publique. Et quand le journaliste lui dit, oui, mais qu'est-ce que c'est l'opinion publique? Il répond, c'est ce qui est mesuré par les sondages d'opinion publique. Donc, il y a une sorte de pirouette qui montre la conscience des sondeurs de cette question-là. J'enchaîne juste sur un autre élément qui est important dans la citation de l'extrait de Pierre Bourdieu, c'est qu'il dit, j'appelle à ce que le soupçon se généralise. Et si on le prend au pied de la lettre, je trouve que c'est un bon conseil. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend à faire au collège, au lycée, à la fac, aux étudiantes et aux étudiants en matière de médias, par exemple, on leur dit allez vérifier les sources, allez vous renseigner. Et moi, j'invite à faire la même chose sur les sondages. C'est-à-dire que les sondages, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais par contre, ce qui manque, c'est une information, une connaissance, une compréhension de qu'est-ce qu'un bon et un mauvais. Et donc, il y a peut-être là-dessus un soupçon à généraliser sur apprendre à lire qu'est-ce qu'on peut faire dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dire à un sondage.
Alors, il y a aussi une autre dimension dans cette analyse de Bourdieu, c'est qu'il nous invite à réfléchir sur la formulation de la question. Est-ce que, parce qu'on a cette vision naïve de la question selon laquelle, et même en philosophie d'ailleurs, selon laquelle une question n'aurait pas de préjugés. Seules les réponses auraient des préjugés puisqu'une question est ouverte et elle fait un aveu d'ignorance et elle ouvre à la connaissance. Est-ce que, Véronique Reissoult, est-ce que vous pensez que Bourdieu a raison de mettre en relief ce danger qu'il y aurait à poser des questions en croyant qu'une question peut être neutre ?
Avec tout le respect infini que j'ai pour M. Bourdieu et le respect aussi de mes confrères ce matin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les uns et les autres. D'abord, la première des choses, c'est qu'il existe non pas une opinion publique, mais des opinions publiques, et ce n'est pas les sondages qui font l'opinion publique, même si les sondages peuvent influencer la réalité de cette opinion. Ensuite, il y a une immense différence entre questionner et observer. Et là, c'est plus mon domaine. Autant je ne suis pas sondeuse, mais observer, c'est mon métier, et analyser à partir de l'observation. Pourquoi ? Parce que un sondage, par essence, il est représentatif, avec la méthode des quotas en particulier, et une question, pour répondre à votre question maintenant, une question, les choses ont beaucoup changé. D'ailleurs, en ce moment, avec ChatGPT, on voit bien l'importance de la question. La réponse que vous allez obtenir dépendra de votre prompt. La réalité, c'est qu'une question, elle peut induire une réponse. Et ensuite, le fait que je vous pose une question dans un sondage ne veut pas dire que ça vous intéresse. Et je vais vous prendre un exemple extrêmement concret. Donc, vous allez répondre, vous aurez une réalité, mais ça ne veut pas dire que ça intéresse. Et vous allez avoir des subtilités qui ne pourront pas apparaître dans un sondage quantitatif et qui peuvent potentiellement arriver dans du qualitatif. Et moi, mon métier, il est d'observer, et donc j'observe. Ça veut dire quoi ? Un, je sais si ça intéresse les gens par la volumétrie ou par la typologie des gens qui s'expriment. Et deux, ben, je n'ai pas de biais. En soi, c'est de l'observation. Donc, je n'ai pas le biais de la question qui aurait été formulée d'une façon qui pourrait orienter vers une réponse. Et donc, c'est une réalité qui est très forte. Et je vais prendre quelque chose de très, très concret. La popularité du président de la République et du Premier ministre, quel qu'il soit. On pose une question qui a un énorme mérite, c'est qu'il y a un côté barométrique. Donc là, on peut dire la question, elle n'est pas biaisée, parce que ce qui nous intéresse dans le fond, c'est l'évolution de la réponse. Vous avez deux personnalités qui sont peu appréciées. Alors prenons le dernier Premier ministre ou le plus récent, ça va être la même chose. Vous allez avoir un taux d'impopularité. Mais ce qu'il y a derrière l'impopularité, dans une réponse de masse, vous ne l'avez pas. Moi, quand j'observe, je vois que, par exemple, quand on regardait le précédent Premier ministre, M. Bayrou, on voyait qu'il était impopulaire, mais il n'était pas détesté. Les gens trouvaient que ça n'était pas clair quand il s'exprimait, qu'il était sans doute mou, que voilà, enfin, il y avait des qualificatifs fort peu agréables, mais globalement, il n'y avait pas de haine. Quand vous regardez Emmanuel Macron, il est impopulaire, mais les propos qui sont tenus sur Emmanuel Macron sont d'une violence incroyable, parfaitement, enfin, mais même déraisonnable. Enfin, il y a des propos qui sont tenus, je ne sais pas, les gens vont très loin. Et donc, on voit que l'opinion publique, elle ne dit pas tout à fait la même chose derrière impopularité. Donc, il ne faut pas prendre juste un élément. Et enfin, c'était juste un petit truc par rapport à Mélenchon, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je voulais vous dire que je n'étais pas trop d'accord pour une chose, c'est que c'est symptomatique. C'est beaucoup plus facile d'accuser le thermomètre que de se poser la question de la maladie. Donc, oui, peut-être que ce n'est pas parfaitement représentatif de l'électorat de M. Mélenchon, mais honnêtement, ce n'est pas ça le sujet. Donc, voilà, c'est plus facile de dire, ah là là, la justice... Donc, c'était
La tentation de casser le thermomètre.
La tentation de casser le thermomètre.
Est-ce que Frédéric Dabi... Sachant que la tentation de casser le thermomètre est réelle, chez les insoumis, ce qui ne les empêche pas que dès qu'un sondage leur est favorable, une petite fois précédemment, qui montre une très bonne position de M. Mélenchon chez les jeunes, il est très fort chez les primo-votants.
Et là, le thermomètre
et
est formidable.
Ça a été retouté. Alors, moi, je trouve
ce
que...
Ce qui est vrai de tous les politiques.
Mais, tout à fait, mais c'est quand même systématique en termes de schizophrénie sur le discours très anti-sondage, très délégitimant l'instrument et l'utilisant lorsque c'est favorable. Alors, les phrases de Pierre Bourdieu, et surtout, j'invite nos auditeurs à lire l'article « L'opinion publique n'existe pas » qui date de 71 ou 72.
Dans les temps modernes, c'est ça.
Voilà, exactement. Qui est vraiment, et c'est un article que je lis régulièrement parce que quand nous écrivons une question, mais est-ce que c'est une question que les Français se posent ? C'est une question extrêmement légitime et cette critique de l'instrument sondage, je l'intègre complètement. Là, et Véronique Reissoult en a un peu parlé et c'est très bien, nous avons essayé de perfectionner l'outil, c'est bien sûr le qualitatif pour reprendre. Pour essayer dans nos questions de reprendre les mots que les Français utilisent. Dans nos questions maintenant, nous parlons parfois sur la question de l'insécurité et du trafic de drogue, de narcotrafic. On n'en parlait bien sûr pas en fait, avant, ce terme était peut-être pour une série sur Netflix, mais ce n'était pas les mots des Français.
Aujourd'hui,
et c'est vrai que ce que je reproche peut-être aux épigones de Pierre Bourdieu, c'est pas de prendre en compte le travail qu'ont fait les instituts avec... Le qualitatif, écouter le discours spontané des Français, comme le fait Véronique Reissoult sur les réseaux sociaux, les conférences citoyennes, où il y a ce temps de formation, d'information des citoyens pour leur permettre de produire un avis raisonnable. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Hugo Touzet, effectivement, n'oubliez pas que chaque sondage publié se retrouve systématiquement sur le site des instituts de sondage, ce qui permet aux citoyens, à l'auditeur, de faire un travail d'examen critique, de vigilance, comme le dit Pierre Bourdieu, en regardant quand est-ce que ça a été fait, qui est le commanditaire, la méthode des quotas, les questions posées. C'est vrai que vous parliez du président de la République. Moi, l'IFOP a trois baromètre. L'historique pour le JDD qui existe depuis 1958, c'est satisfait, mécontent. Le plus récent pour West France, c'est approuvez-vous l'action, et celui qui a 25 ans avec Paris Match, bonne, mauvaise opinion. On va dire très rapidement, ah ben c'est facile, c'est de la popularité. Non, non, on ne mesure pas les mêmes choses, ça ne convoque pas le même imaginaire, donc il y a un vrai travail, et de ce point de vue-là, la conférence de Pierre Bourdieu nous incite à toujours essayer d'améliorer et de coller nos questions au réel, même si c'est un vrai exercice, et parfois, nous n'y arrivons pas, et on peut parler d'artefacts, d'impositions, de problématiques.
Justement, Hugo Touzet, puisqu'on est en train de parler, bon, éventuellement des limites ou des questionnements méthodologiques sur les sondages, mais je remarque que vous parlez tous les trois le langage aussi de la citoyenneté, vous posez la question civique de la place des sondages dans une société et dans un pays qui est une démocratie. Alors, dans votre ouvrage « Produire l'opinion », une enquête sur le travail des sondeurs, il y a deux parties. Il y a une partie où vous faites une sorte d'immersion sociologique dans un institut de sondage mystérieux auquel vous donnez un nom fictif. Mais il y a aussi une première partie que j'ai trouvée vraiment passionnante, qui est une généalogie des sondages, qui se lit vraiment comme un roman, où vous racontez la manière dont les sondages apparaissent, d'abord avec les votes de paille, des sortes de méthodes d'estimation des résultats des élections, et puis progressivement, comment des personnages comme Gallup, dont vous parliez tout à l'heure, comme un Français, se situent aussi un peu à la lisière des sciences sociales, et conçoivent les sondages comme un outil qui serait absolument vital pour le fonctionnement de la démocratie. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce lien, à la fois organique et complexe, entre sondage et démocratie ?
Oui, tout à fait. Alors, les sondeurs, les premiers sondeurs, donc ça naît dans les années 20-30 aux États-Unis, c'est assez rapidement importé en France et dans plusieurs autres pays d'Europe. Et en fait, ça marche sur trois piliers, on peut dire. D'abord, un pilier scientifique, puisque les sondeurs disent nous on s'appuie sur des méthodes scientifiques, puisque c'est à ce moment-là où, sans rentrer dans les détails, la statistique, les statisticiens et statisticiennes reconnaissent qu'on peut faire des statistiques inférentielles, c'est-à-dire interroger une petite partie de la population et dire quelque chose sur l'ensemble de la population. Donc la méthode en elle-même devient possible. Il y a un autre élément, c'est que les sondeurs à ce moment-là vont être trouver un débouché dans le secteur privé, ce qui est encore très largement le cas aujourd'hui, puisque ça va permettre de mieux cibler sa clientèle, pour le dire vite, avant de commercialiser une voiture ou de la fabriquer, bah vous allez poser des questions aux gens pour savoir si bah, vous avez une clientèle potentielle. Et très rapidement, il y a ces deux aspects-là. Il y a un troisième qui vient s'ajouter, qui est très très présent dans le discours des sondeurs et qui est encore présent dans ceux que j'interviewe aujourd'hui pour ce livre, c'est de dire nous, on est indispensable à la démocratie. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est l'opinion par le peuple, pour le peuple, etc. Vous connaissez la rengaine. Et nous, on vous propose une méthode, une solution pour savoir en permanence et sur tous les sujets, ce que pense le peuple. Et cet argument-là, il est très très fort parce qu'il est un peu imparable d'un point de vue rhétorique et il va rencontrer un public, je l'ai dit, du côté des entreprises privées, mais très rapidement aussi du côté de la presse, du côté des partis politiques qui vont en avoir un grand usage.
Il y a notamment quelque chose que vous rappelez dans votre livre, c'est qu'il existait au début du 19e siècle, dans chaque ville des États-Unis, une procédure qui était le town meeting. Chaque décision à prendre devait faire l'objet d'une consultation collective où on convoquait les gens qui étaient dans la commune et puis les élus, les représentants de ces communes. Et vous rappelez d'ailleurs que Tocqueville était un grand partisan de cette procédure et qu'il estimait que c'était l'outil par excellence de la démocratie et qu'évidemment, à partir du moment où la population augmente considérablement, on est obligé d'utiliser des sondages comme une sorte de continuation du vote. Mmh. Est-ce qu'on peut dire ça ? Que le sondage nous place dans une situation de vote permanent et qu'en un sens, c'est donc l'étendard de la démocratie ?
Alors, non, je dirais pas ça comme ça, parce que alors, la continuation du vote, ce serait des intentions de vote, des enquêtes électorales tout le temps, et c'est pas le cœur de notre activité. Vous savez, et tout le monde le sait, la grande partie des sondages, c'est les sondages marketing, auxquels moi, personnellement, je ne touche jamais, des grands donneurs d'ordre privés qui testent des produits. L'opinion ne s'arrête pas sur les produits. Non, par contre, le sondage, pour moi, d'opinion, c'est une information livrée au plus grand nombre. Ce n'est jamais la réalité. C'est une perception réel. Mais quand même, il y a un lien avec le débat démocratique. Je dirais l'absurde, ou plutôt l'inverse, dans toute dictature, il n'y a jamais de sondage. L'IFOP écrit en 1938, premier sondage IFOP publié qui a une dimension dramatique, ce sont les accords de Munich, où, entre parenthèses, l'opinion des Français est nettement moins unanime vis-à-vis de ces accords de 1938 que l'ensemble de la classe politique. En 40, quand les Allemands rentrent à Paris, une des premières décisions du général von Stupenger, le gouverneur de Paris, c'est fermer l'IFOP. Il n'y a pas d'institut de sondage sous Ceausescu. Dans l'URSS soviétique, en Chine communiste, il y a beaucoup de sondages marketing, pas de sondages d'opinion. Et à titre personnel, il y a une dizaine d'années, je devais faire des enquêtes dans un pays du Maghreb, la Tunisie, pour des élections, ça a été annulé puisque les sondages ont été interdits 3 semaines avant le scrutin. Il y a quand même ce lien avec la démocratie, mais je pense pas que ça mette les Français en situation de vote. C'est en situation d'information, et peut-être le sondage, et mieux que les sondages, les qualitatifs, les conférences citoyennes, là, peut créer les instruments du débat.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Puisque nous parlons du lien entre sondage et démocratie, je vous propose de changer un tout petit peu de perspective et de réfléchir à la place des sondages chez les politiques, à ce que ça change peut-être dans l'activité politique. Il y a ce lieu commun, vrai ou faux, je ne sais pas, on va en discuter, mais de dire que les hommes politiques aujourd'hui seraient complètement obsédés par les sondages, ce qui n'était pas forcément le cas avant, enfin on va en discuter. Je vous propose d'écouter ce que disait François Mitterrand dans une très célèbre émission pendant sa campagne électorale en 1981, où il affirmait que ses convictions personnelles étaient peut-être plus importantes, en tout cas qu'il ne voulait pas tricher et dépendre des sondages pour choisir ses convictions personnelles.
Dans ma conscience profonde, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République. Et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort.
On dit souvent que d'ailleurs, c'est le paradoxe, l'ironie de l'histoire, que c'est après cette émission et grâce à ce moment où il disait qu'il ne voulait pas dépendre des enquêtes d'opinion que François Mitterrand et notamment a réussi à monter encore plus dans les sondages. Véronique Reissoult, est-ce que ce lieu commun dont je parlais tout à l'heure, des politiques qui seraient obsédées par les enquêtes d'opinion, dans quelle mesure est-il vrai ?
Je pense qu'ils sont aujourd'hui obsédés, mais pas que par les sondages, aussi par le dernier tweet, par le dernier mouvement, une espèce de course à l'écume qui peut interpeller. Le courage, je ne suis pas sûre que ce soit parce qu'il est dit que les sondages n'étaient pas bien que M. Mitterrand a été élu, c'est plutôt la force du courage et sa capacité à assumer un point de vue qui a été fort. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de politiques qui sont prêts à assumer leur point de vue ? C'est pas si clair que ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont tout le temps en train de courir vers une espèce de mesure hypothétique des choses ? Je pense que il y a deux raisons. La première, c'est que la notion de réputation est devenue quelque chose d'extrêmement clé et qu'on a l'impression qu'il faut la maîtriser pour arriver à gagner les voix. Le deuxième, c'est qu'il y a une forme de volatilité dans l'opinion publique et que, eh bien, ils ont besoin de se rassurer parce qu'un thermomètre, ça rassure. Même s'il ne donne pas la bonne mesure, en tout cas celle que l'on souhaite, ça permet de savoir où se situer. Après, je pense que l'ensemble de ce que nous disons depuis tout à l'heure, il y a une donnée qu'on n'a pas évoquée, mais le monde a quand même beaucoup changé. La première des raisons où on peut se dire ça, même si Bourdieu a raison sur plein d'éléments, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis, même si M. Mitterrand, quand il s'exprime, il a raison en grande partie, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et la première des choses, c'est que l'opinion publique s'exprime et qu'elle a aujourd'hui des outils pour s'exprimer. Et donc, elle a une réalité d'une pression potentielle. Moi, j'appelle ça le cinquième pouvoir. Pourquoi ? Parce que, eh bien, de fait, le quatrième était vous, les médias. Ben, le cinquième, c'est l'opinion publique qui s'exprime. On ne peut plus l'arrêter. La question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce que le sondage est la suite de la démocratie ? Non. La suite de la démocratie, c'est si on veut faire des références historique que les auditeurs France Culture apprécieront, c'est les Bouchers des Léones qui avaient un vrai sens à Venise, qui est le peuple s'exprimait, mais c'était peu de peuple. Là, aujourd'hui, tout le monde s'exprime. Alors, sans doute, à tort et à travers, on peut se poser la question du poids de la parole de chacun, mais il y a une réalité d'une opinion publique qui peut faire pression. Est-ce que je vous parle de la signature de pétition sur Duplon, la loi Duplon ? Ben, on a un exemple très clair. Est-ce qu'on parle de l'ensemble des actions qu'il y a eu pendant le grand débat et l'envie de faire bouger les choses, alors qui a généré une forme de colère parce que ça n'a pas été écouté ? Mais la vraie poursuite de la démocratie, c'est pas tant les sondages sondages, qui sont une information dont l'opinion publique peut s'emparer, mais la vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion publique s'exprime, c'est un cinquième pouvoir, et que si les politiques n'en tiennent pas compte, il y a une réalité qui devient compliquée, et ce ne sont pas les sondages qui vont réguler. Ils sont juste là pour orienter potentiellement de la compréhension de ce qui est en train de se passer.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que, en effet, depuis notamment l'émergence des réseaux sociaux, avec une opinion publique qui s'exprime directement, est-ce que ça ne change pas un tout petit peu même les objectifs des sondages, à savoir que si on regarde simplement les réseaux sociaux, on peut avoir l'impression, en fonction de critères quantitatifs que sont le nombre de likes, le nombre de partages, qui va être en top tendance sur X, quel sujet, etc. On peut avoir aussi parfois une vision biaisée de l'opinion publique, en ayant l'impression que ceux qui sont les plus puissants, ou les plus présents, ou les plus relayés sur les réseaux sociaux correspondent à la majorité de l'opinion. Est-ce que les sondages n'ont pas aujourd'hui de fait cette nouvelle vertu ou cette nouvelle exigence de corriger les illusions d'optique de l'expression de l'opinion publique sur les réseaux sociaux,
Frédéric Dabi? Oui, cela peut jouer, même si je ne veux pas être sur une bataille d'Hernani, la vraie opinion, ce sont les sondages, et l'opinion caricaturale bouillonnante, c'est par exemple X ou les réseaux sociaux d'une manière générale. Non, il faut dépasser ça. On est sur des outils complémentaires. D'un côté, il y a une logique de bouillonnement, de mobilisation. Dans les enquêtes, il y a cette logique imparfaite, mais quand même plus solide que le reste en termes de représentativité. Vous parliez de la popularité et des likes. Quand on regarde des réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon, pardon, je l'ai déjà cité, et Éric Zemmour apparaissent comme des hommes politiques particulièrement appréciés, populaires, parce qu'ils ont des fans, ils ont une force militante très très impressionnante.
Une bataille numérique qui est pensée.
Une bataille numérique qui est pensée, théorisée, que l'on voit pendant la campagne fête présidentielle. Aujourd'hui, c'est les 30 ans de Jordan Bardella, c'est la personnalité la plus visible sur TikTok. Quand on sait que les primo-votants sur les élections européennes ont d'abord utilisé comme vecteur Instagram et TikTok, les politiques dont je viens de parler, Zemmour et Mélenchon, sont dans les baromètres classiques politiques les plus impopulaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont... pardon de terme, foutu en termes électoraux. La popularité, c'est une chose, une élection, c'est complètement autre chose. Moi, j'ai envie de défendre par rapport à nos débats les personnalités politiques. Parce qu'il y a, je les fréquente depuis quelques années, il y a deux archétypes ou idéotypes que je n'ai vraiment pas vraiment rencontrés. Le politique obsédé, pour reprendre votre terme, des sondages jusqu'à la lie et qui va ne penser que sondage, que adapter son discours par rapport aux enquêtes. L'exemple du 16 mars 80 de cartes sur table de François Mitterrand est un exemple historique. On oublie que Georges Marchais, qui avait une base communiste, des électeurs très favorables à la peine de mort, avait été très courageux après l'affaire Patrick Henry en disant qu'il était personnellement contre la peine de mort. C'était pas facile à dire quand l'électorat de François Mitterrand était plutôt abolitionniste. On peut même continuer. La Macronie savait que la réforme des retraites à 65 ans et finalement à 64 faisait l'objet d'un rejet massif. Elle y allait jusqu'au bout. Deuxième archétype que je n'ai jamais vu, un homme politique complètement désintéressé qui va faire filer son... Je dirais qu'il l'utilise de manière raisonnable. Et puis on oublie, on parle que du personnel politique national. N'oublions pas les milliers et milliers d'élus locaux, de maires, de présidents de régions, de départements, qui ont un usage moins fort des sondages, mais qui utilisent très souvent comme un instrument, notamment d'évaluation des politiques publiques. Il y a beaucoup plus de raisons dans le rapport des sondages aux politiques qu'on le dit.
Alors, puisque vous parlez de ces deux archétypes que vous n'avez pas rencontrés...
Ou marginalement.
Est-ce qu'il n'y en a pas aujourd'hui un nouvel archétype dans l'utilisation faite par les politiques des sondages? Là, je ne parle plus de vous, enfin, ou des sondages en tant que tels. C'est, je dirais, l'utilisation du sondage comme arme politique pour régler des conflits, notamment sur des lois. J'aimerais vous donner un exemple. Lors de la dernière loi immigration, on se souvient qu'elle avait été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel et qu'à l'époque, Gérald Darmanin avait pu invoquer des sondages dans le débat public et au Parlement aussi, dans des débats au Parlement, invoquer les sondages pour dire « mais attendez, une grande majorité de la population est favorable à telle ou telle disposition de la loi que censure le Conseil constitutionnel, c'est un problème ». Et donc c'était devenu une forme presque d'arme politique. Et d'ailleurs Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, avait dit « mais attendez, au Conseil constitutionnel, nous ne sommes pas là pour être la caisse d'enregistrement des sondages ». Hugo Touzet, est-ce que c'est nouveau comme phénomène? Et qu'est-ce que ça signifie, cette utilisation-là des sondages dans la rhétorique politique?
ça va avec ce qu'on a dit tout à l'heure, cette idée un peu générale que l'opinion, c'est le peuple, et donc on a besoin, envie d'avoir le peuple avec soi, surtout quand on est un représentant, une représentante politique. On pourrait tout de suite opposer à votre exemple sur les lois immigration, les exemples sur les retraites, c'est-à-dire que pendant le mouvement sur les retraites, par exemple, le personnel politique qui y était opposé mobilisait en permanence des sondages pour faire valoir son point de vue. Il y a peut-être, moi je voudrais simplement répondre à la question en refaisant un tout petit détour par Bourdieu tout à l'heure, parce que Bourdieu, ce qu'il dit, il faut savoir en tête qu'il l'écrit, on l'a dit, en 72, il le dit en 72, c'est publié en 73. À cette époque-là, il y a trois instituts de sondage. Un sondage, c'est encore très cher à faire, très long, très compliqué. Entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est que les sondages se sont considérablement multipliés. Pourquoi ? Parce que bon, il y a plus d'instituts aujourd'hui et que faire un sondage, pour le dire vite, c'est pas très cher et c'est pas très long. Et donc, beaucoup plus de personnes, d'associations, de personnels politiques peuvent commander des sondages. Vous prenez un exemple sur une mobilisation sur l'écologie, vous êtes le lobby pro-nucléaire ou vous êtes une association écologiste anti-nucléaire, vous avez les moyens de commander un sondage. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde peut faire valoir de la même manière ça, parce qu'il faut tout de suite penser, jusqu'à maintenant, on pense le sondage un peu tout seul. Et en fait, quand on pense les sondages, il faut penser le couple média-sondage. Et ce qui se passe aussi, c'est que les sondages, ils contribuent à ce qu'on appelle en sociologie le cadrage médiatique, c'est-à-dire que les médias, un certain nombre de médias, vont se servir aussi des sondages pour mettre des thèmes qui vont être débattus à l'actualité et pour cadrer la manière dont ils vont être débattus. Donc le sondage, rappelons toujours que c'est un outil et qui va être utilisé par des chercheurs, des chercheuses, par des gens qui défendent A, des gens qui défendent B, mais que toutes les personnes n'ont pas les mêmes moyens de percer ce mur médiatique en commandant des sondages, par exemple.
Le mot de la fin, Véronique Reilsoult, le sondage, un outil dont qui dépend de son utilisation.
Oui, le sondage est un outil extrêmement utile, c'est toujours pareil, après c'est le sérieux de la façon et des questions, on revient à Bourdieu, et de l'échantillon, et de ce qu'on cherche comme information. La réalité, c'est que c'est un outil qui est toujours représentatif quand il est posé sérieusement, et donc c'est toujours intéressant d'avoir une information sur la représentativité. Après, j'aime bien ne pas l'opposer aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est pas représentatif, mais c'est significatif. Ensuite, ça serait bien de ne pas caricaturer les réseaux sociaux, parce que ça n'est pas que l'écume, loin de là, c'est juste, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir comprendre ce qui s'exprime. Un like n'est pas un vote, mais en revanche, un taux d'engagement, la segmentation des expressions, tout ça permet de faire des choses qui sont intéressantes pour la compréhension de l'analyse de l'opinion. Et je pense que c'est le sondage avec des méthodes plus traditionnelles et l'écoute des réseaux sociaux sont des outils complémentaires. Je pense que le 10 septembre en est un bon exemple. Les questions qui étaient posées permettaient de connaître la réalité de la perception de ce mouvement dans l'opinion publique. Ça ne pouvait pas dire réellement si on allait avoir une action ou pas. Quand on observait ce qui se disait sur les réseaux sociaux, on ne pouvait pas non plus faire de la prospective, c'est pas non plus de la divination, mais on avait une capacité de mesure vraiment beaucoup plus forte de l'engagement. Donc il faut le prendre à chaque fois comme quelque chose de complémentaire.
Merci beaucoup à vous trois. L'émission a été merveilleusement préparée par Aline Biette et formidablement réalisée et mise en onde par Souad Bokorsa. On se retrouve la semaine prochaine. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site et l'application de Radio France.